On en parle.
Mots violents échangés avec ses parents, accrochages avec ses professeurs, ses camarades. On parle ce matin de l'adolescent violent dans notre séquence éducation. Est-ce un passage obligé de l'adolescence? Que faire pour y remédier? Des questions auxquelles vous allez répondre, Pascal Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach pour adolescents à Genève et dans la région de Nyon. Également présent à la table dont on parle, Frédéric Philippin. Pascal Roux, vous recevez des jeunes dans votre consultation. Vous travaillez également avec des adolescents au semestre de motivation de la côte à Nyon. Est-ce que les adolescents que vous observez ont des comportements violents? C'est un phénomène qui est préoccupant pour vous?
Alors bon, dans ma consultation en privé, les adolescents n'ont pas de comportement violent puisque c'est le lieu ne s'y prête pas. Le lieu du cabinet est un lieu protégé. Mais en revanche, ça m'arrive de recevoir des familles qui ont cette problématique à la maison où la violence s'exprime par les coups, voire par les ou par la parole. Donc c'est une problématique que je rencontre également en privé. Dans l'association dans laquelle je travaille, effectivement, là, on a un groupe de jeunes. Hein, donc, on a une cinquantaine de jeunes dans l'association. Donc là, c'est vrai qu'il arrive des moments où il y a des conflits entre les adolescents. Pour moi, c'est préoccupant, non pas parce qu'on entend souvent dire que la violence est de plus en plus fréquente, qu'on en voit de plus en plus qu'avant, etc., mais plus parce qu'elle est, pour moi, symptomatique du malaise de l'adolescent. L'adolescent rencontre des difficultés dans sa vie au quotidien, puis il ne trouve pas d'autre solution que la violence. Et moi, mon rôle de psychologue et de coach est de m'intéresser au malaise qu'il y a derrière la violence, pas à la violence en elle-même.
Alors, cette violence, comment elle se manifeste? On connaît bien sûr la violence des gestes, il y a également la violence des mots qui peut être encore plus dure.
Bon, la violence des gestes, hein, dans les comportements, c'est celle que nous observons, c'est celle que la société dénonce. C'est tout ce qui est de l'ordre des incivilités, des dégradations dans les lieux publics, ou de la violence, la bagarre, des bandes organisées. Maintenant, on voit ça aussi, hein, y compris en Suisse. Donc ça, c'est ce qu'on dénonce le plus parce que c'est ce qui est le plus visible, hein, et c'est aussi ce qui coûte plus cher à la société, aussi bien au niveau financier qu'au niveau humain. On voit cette violence qui est plus flagrante, disons, on va dire. Maintenant, il y a cette violence qui est beaucoup plus larvée, qui est aussi plus insidieuse, qui est cette violence verbale, qui est ce sont des insultes, ce sont des provocations, et c'est des choses que l'on voit, pour ma part, que j'observe de plus en plus souvent, ces espèces de rapports de force comme ça au niveau du langage, et qui, à mon avis, est tout aussi préoccupante, voire plus préoccupante encore que la violence physique, parce qu'elle est plus insidieuse et moins dénoncée.
Mais la violence, elle a tendance à se banaliser chez les ados?
Alors, pour moi, la banalisation, c'est pas cette idée que les jeunes savent que c'est mal, mais ils le font quand même. La banalisation, c'est ils pensent que c'est normal, que c'est un mode de réaction habituel et acceptable face à une situation dans laquelle ils sont en difficulté. Les jeunes se construisent par modélisation, beaucoup par modélisation, c'est-à-dire que quand ils sont en difficulté, ils vont chercher des solutions à ces difficultés. Et pour ça, ils vont observer dans leur environnement ce qui se passe, comment dans une situation comme la leur, les autres se comportent. Et cette modélisation, ça va se faire auprès des copains, auprès de la famille, auprès de la société d'une manière plus générale, y compris la télévision d'ailleurs. Et la réponse que la société donne aujourd'hui à la problématique, par exemple relationnelle, quand je suis en conflit avec quelqu'un, comment je fais? Et la réponse que la société donne aujourd'hui au travers notamment de la télé, c'est la violence, c'est le rapport de force. Donc je vais montrer que je suis plus fort, et pour ça je le fais au travers du comportement violent.
Donc ils copient ce qu'ils voient, tout simplement.
Ils copient ce qu'ils voient, absolument, parce que c'est l'être humain invente peu de choses. En général, il reproduit des choses qu'il a vues par ailleurs. Et les adolescents font la même chose que nous. Nous aussi, on fait la même chose, hein, en tant qu'adultes.
Et vous arrivez quand même à expliquer ces comportements violents?
Alors, pour moi, le comportement violent, c'est, donc, je parlais du rapport de force, c'est-à-dire c'est montrer à l'autre que je suis le plus fort, parce que quand je me sens le plus fort, je me sens vivant. Si j'ai l'impression d'être mieux que l'autre, alors je me sens bien dans ma peau. Il y a cette idée-là, c'est ce qu'on appelle, c'est pas la position gagnant-gagnant où là on se sent égalitaire, mais si toi t'es perdant, moi je suis gagnant. Hein, c'est un peu cette position psychologique.
C'est la compétition.
C'est la compétition.
Albert Jacquard disait d'ailleurs, c'est ce qui va nous perdre. La compétition.
C'est ce qui va nous perdre, parce qu'au départ la compétition peut être perçue comme une motivation à avancer. Et puis au bout du compte, si elle n'est pas transformée vers quelque chose de « je me sens suffisamment bien pour être égalitaire avec l'autre », alors je perds, puisque l'autre perd, je perds aussi. Mais bon, ça c'est quelque chose qui vient plus tard dans la maturation. Et l'adolescent, il n'est absolument pas là-dedans. Lui, il est dans « je gagne quand toi tu perds ». Donc il y a cette, donc la violence peut, des comportements peut être peut s'expliquer par ça. Elle s'explique aussi par le fait que les adolescents n'ont pas les mots, M-O-T-S. C'est-à-dire que souvent ils sont aux prises avec des émotions, avec des ressentis dont ils ne savent pas quoi faire. D'abord parce qu'ils ne savent pas les reconnaître et puis parce qu'ils ne savent pas comment les sortir. L'émotion c'est une énergie, c'est quelque chose qui va s'accumuler à l'intérieur de soi, qui va s'accumuler aussi au travers des expériences difficiles, de conflits, de malaises. Et à un moment donné, cette énergie elle a besoin de sortir. Alors, soit l'adolescent a appris les mots, M-O-T-S, et puis ben, il peut exprimer cette énergie au travers des mots, soit il n'a pas appris les mots, et là, dans ces cas-là, il va donner des coups, parce que c'est besoin de se retrouver de l'équilibre, on appelle ça l'homéostasie, c'est retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi, et pour ça, il faut décharger son émotion. Donc le comportement violent, pour moi, il est... j'allais dire l'intention positive du comportement violent, c'est d'exprimer quelque chose, c'est de pouvoir dire voilà, je me sens pas bien dans cette situation.
Alors comme souvent dans cette chronique éducation, on va parler du rôle de la télé. Ça paraît un peu bête de le dire, mais toutes ces séries américaines, elles ont forcément une influence néfaste sur les ados.
Alors il y a deux courants de pensée dans ce domaine-là. Certains pensent que à partir du moment où les adolescents sont spectateurs de films violents ou acteurs dans des jeux vidéo par exemple, ça va leur permettre de ça va jouer un rôle de catalyseur, c'est-à-dire ça va leur permettre de canaliser leurs émotions dites négatives et leur agressivité vers quelque chose de virtuel plutôt que vers leur environnement proche. Je ne partage pas cette opinion. Moi, je crois qu'effectivement, la télévision, mais aussi toute l'ambiance dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on vit dans une société qui est violente. Et je crois que c'est plutôt un impact négatif sur les adolescents. Ce qui pour moi est problématique par rapport à ces séries télévisées, c'est qu'à aucun moment la télé vous dit « la violence, c'est bien ». Parce que si c'était aussi clair que ça, les adolescents peut-être pourraient éventuellement réfléchir et dire « mais est-ce que c'est vraiment bien la violence ?» Mais la violence, elle est plébiscitée vraiment par le biais des comportements des héros. Donc le héros se comporte de manière violente et il est mis sur un piédestal pour cette raison-là. Donc on envoie le message à nos adolescents que la violence, si elle est légitimée parce que c'est le héros, parce qu'il a de bonnes raisons d'être violent, alors c'est normal. Et je suis effarée de voir que, par exemple, la série qui fait un carton chez les jeunes en ce moment, c'est Prison Break, avec les héros sont quand même des repris de justice qui sont évadés, donc qui transgressent la loi à chacun des épisodes. Mais ça pose de problème à personne puisque ce sont les héros et que ben, c'est normal qu'ils soient violents puisqu'ils ont été victimes d'injustice. Donc je suis beaucoup plus inquiète du message larvé que la télévision envoie, plutôt que cet esprit critique que les adolescents n'ont pas encore développé les met en danger face à ce message larvé de la télévision.
Mais que peuvent faire ou que doivent faire les parents? Qu'on peut prévenir d'abord la violence chez les ados?
Alors, je crois que tous les ados ne sont pas violents. Donc c'est bien
qu'il y en a qui vont très bien.
Il y en a qui vont très bien. Il y a des adolescents qui ne sont pas violents. Ça veut donc dire que la violence n'est pas inhérente à l'adolescence. Je crois que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'expression de la violence, qui est en fait un passage à l'acte de l'émotion. Je crois qu'une des manières de prévenir la violence chez les adolescents, c'est de leur apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils vivent plutôt que de les agir. Donc le rôle des parents, pour moi, est un rôle éducatif. Bien sûr qu'il y a un rôle de prendre soin, de câliner et d'aimer ses enfants, mais il y a aussi un rôle éducateur. Et ce rôle, c'est apprendre aux enfants à se rendre compte de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, de savoir qu'il se passe des choses au niveau émotionnel, de savoir reconnaître ce qui se passe, de pouvoir mettre des mots pour pouvoir l'exprimer. Parce que quand je peux dire « je ne vais pas bien » ou « je ne me sens pas bien » ou « je me sens en colère », je ne suis plus obligée de taper pour l'exprimer. Et ça, pour moi, c'est vraiment le rôle des parents. Encore faut-il qu'ils l'aient fait pour eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que les parents doivent aussi apprendre pour eux-mêmes à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, hein. C'est-à-dire la capacité à reconnaître ses émotions et puis sa capacité de rentrer en relation avec l'autre. Donc les parents doivent travailler sur leur propre intelligence émotionnelle.
Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin avec Frédéric Philippin. Bonne journée Pascal Roux.
Bonne journée.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.